Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Myriam Lemaire.
Le Sénat a développé ces dernières années une politique d'ouverture vers le public en multipliant des actions tournées vers la société tout entière. Quelles sont ces actions? Quelle utilisation des nouvelles technologies? Quels sont les différents publics auxquels elles s'adressent? Comment rapprocher le Sénat et les sénateurs des citoyens et faire mieux connaître les travaux des parlementaires? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité est aujourd'hui M. Philippe Cérez, directeur du service de la communication du Sénat. M. Cérez, bonjour et bienvenue sur Canal Académie.
Bonjour madame et merci de m'accueillir.
M. Cérez, avant de vous poser une première question, je souhaite rappeler pour nos auditeurs que de nombreux liens se sont tissés au fil des années entre le Sénat et l'Académie des sciences morales et politiques. En effet, plusieurs sénateurs sont membres de cette académie et je voudrais citer le premier d'entre eux, le président du Sénat, M. Christian Poncelet, élu membre de cette académie en 2003, qui est l'année où a été adoptée sa proposition de loi modifiant la durée du mandat des sénateurs, la composition et le rôle du Sénat. Je citerai aussi, bien sûr, M. Jean Cluzel, président fondateur de Canal Académie, élu en 1991 à l'Académie des sciences morales et politiques, qui a été longtemps rapporteur au Sénat du budget de l'audiovisuel, ainsi que M. Alain Perfitte, qui fut sénateur de Seine-et-Marne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, une grande figure et du Sénat et de l'Institut de France. Je rappellerai aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent écouter sur Canal Académie plusieurs émissions concernant le Sénat. Le nouveau Sénat, qui a été évoqué par Christian Poncelet au mois d'avril 2006, ainsi que deux émissions consacrées en 2005 à la bibliothèque du Sénat. Philippe Cérez, pourquoi et comment le nouveau Sénat évoqué par Christian Poncelet développe-t-il une nouvelle communication? Quelles en sont les principales orientations et les moyens? Et quel est le rôle de votre service pour promouvoir cette communication?
Le nouveau Sénat dont parle le président Poncelet est un Sénat qu'il a su dynamiser à partir de 1998, au moment de son élection, en ouvrant résolument la maison sur l'extérieur, en développant une politique événementielle tout à fait importante, dont un des sommets restera en l'an 2000, l'accueil au Sénat de tous les maires de France lors du 14 juillet 2000. Ça a été aussi une utilisation du patrimoine que l'histoire nous a légué. Je pense en particulier aux grilles du jardin du Luxembourg, au jardin lui-même. Et depuis maintenant presque 10 ans, le musée du Luxembourg, qui était un musée qui a été construit par le Sénat de la Troisième République en 1885-86, qu'il a été inauguré je crois en avril 1886, et qui a retrouvé une programmation propre au Sénat à partir de l'arrivée du président Poncelet. Donc voilà un exemple rapidement brossé, un tableau rapidement brossé de cet ensemble de communication, donc fondé à la fois sur le cœur de métier, c'est-à-dire le travail législatif, le travail de contrôle qui au Sénat est toujours et depuis des années très 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 important et que nous valorisons et que nous avons mission de valoriser. Et puis, création d'événements, d'événements intellectuels. Nous avons créé les rendez-vous citoyens du Sénat. Nous avons créé les rencontres sénatoriales de l'économie, de l'entreprise, de la justice, qui sont des moments de rencontre entre ces divers mondes et le Sénat et les sénateurs. Nous avons aussi ouvert la maison sur la jeunesse, avec déjà du temps du président Monoril, Sénat Junior, qui était aussi des temps très très forts. Talent des cités plus près de nous, qui a permis de mettre en valeur tous ces jeunes qui mènent qui ont une créativité sur le secteur des banlieues et de la politique des quartiers. Donc voilà un peu rapidement brossé quels sont ces axes de cette politique. Et dans cet ensemble qui est défini par le président et le bureau du Sénat, bien évidemment, mon service est appelé à apporter sa contribution à la fois sur le plan cœur de métier. Ce sont les conférences de presse que nous organisons, ce sont les relances que nous faisons des journalistes, ça c'est le média, et puis nous développons de plus en plus ce que l'on appelle une communication hors média, c'est-à-dire hors le monde des journalistes, à travers les multiplicateurs d'informations que sont les gens du monde de l'entreprise, du monde de la science. Bon. Donc ça, c'est le cœur de métier. Et puis, à travers la division, le pôle de communication événementielle, nous aidons à la réalisation de ces grands événements qui vont depuis le colloque, les expositions sur les grilles, des grands événements à des périodes précises. Tout récemment, pour la période européenne dans laquelle se trouve le Sénat et la France, depuis le 1er juillet 2008, nous avons aussi monté un certain nombre d'événements et un certain nombre de colloques qui mettront en valeur un peu cette présidence française de l'Union européenne.
Ces actions de communication sont donc très diverses. Elles concernent le citoyen en général. Elle concerne aussi des publics spécifiques. Vous avez cité les jeunes, je citerai les Français de l'étranger, les entreprises. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ces publics ciblés vers lesquels le Sénat souhaite s'ouvrir et s'est déjà ouvert ?
Nous avons reparlé à l'instant des jeunes, mais développons un tout petit peu. En dehors de Sénat Junior, nous avons aussi un site sur le site internet principal du Sénat Junior qui permet d'avoir une action directe vis-à-vis d'eux. Nous avons aussi la semaine de la presse à l'école qui, depuis une dizaine d'années, permet à des enfants de toute la France de concourir pour le meilleur journal de classe qui est réalisé pendant une semaine du mois de mars. Qui permet aux enfants de rencontrer leur sénateur, de discuter avec eux. Et après, ils font, sur une thématique qui est arrêtée préalablement, ils font un journal de 4 pages qui rentre en concurrence avec ceux de tous leurs camarades de différents départements. Et nous avons comme ça 4 lauréats, 2 lauréats du primaire et 2 lauréats du niveau collège. C'est au mois de juin que nous remettons ça. Donc on a remis ça il n'y a pas très longtemps, donc, cette année. Et ça a beaucoup de succès aussi côté jeunesse. Vous avez parlé des Français de l'étranger. Il est vrai que nous avons déjà fait 2 journées consacrées aux Français de l'étranger, c'est-à-dire à la problématique spécifique de nos compatriotes expatriés, la plupart du temps dans le cadre de missions qu'ils ont dans leurs entreprises, ou tout simplement parce que le métier d'un des conjoints a conduit à se rendre à l'étranger et y résider. Ils ont à la fois un savoir-faire très particulier, mais aussi des difficultés spécifiques dans le domaine de la sécurité sociale ou autre, par exemple. Bon. Mais aussi dans le domaine pour les jeunes. Enfin, les jeunes qui veulent rentrer dans la vie active, c'est une occasion, ces journées des Français de l'étranger, de se renseigner sur tout ce qui est l'expatriation, les VIE et compagnie, enfin, tout ce qui est l'aide à l'emploi tournée résolument vers l'étranger ou à l'étranger.
Et pourquoi le Sénat souhaite-t-il parler aux jeunes, s'adresser aux jeunes et aux Français de l'étranger, sans doute parce que 12 sénateurs les représentent.
C'est un des bonus constitutionnels du Sénat pour ce qui est des Français de l'étranger. Donc il est tout à fait normal qu'on ait un regard particulier, puisque ces sénateurs des Français de l'étranger sont extrêmement actifs à Paris pour le compte de ces Français expatriés. Non, je crois qu'il y a une volonté de, pour ce qui est des enfants, il est vrai que l'instruction civique n'est plus pratiquée peut-être comme on a pu la pratiquer nous-mêmes à l'époque où nous étions dans le primaire. Donc il faut trouver d'autres relais et c'est l'occasion d'expliquer dans une langue qu'on essaie d'être de rendre la plus claire possible ce qu'est le fonctionnement des institutions, ce qu'est un parlement avec 2 chambres, ce qu'est un président de la République. Et nous avons des brochures, nous avons une brochure en particulier au Sénat que j'ai fait faire il y a 7-8 ans, et dont je suis très fier, qui a beaucoup de succès, puisque c'est dans des mots très très simples que nous expliquons le fonctionnement du Parlement, le fonctionnement des rapports entre le Parlement et le gouvernement, ce qu'est la vie d'un sénateur. Tout ça, c'était avec des petits croquis. C'est comme une bande dessinée.
Oui, avec un personnage, je crois, qui est Sénatin.
Qui est le personnage du site Sénat Junior.
Qui accompagne les enfants dans leur découverte du Sénat.
Tout à fait.
Le Sénat a été un précurseur en matière de nouvelles technologies, puisque dès 1995, il a ouvert son premier site internet www.sénat.fr. Depuis, ce site n'a cessé d'évoluer, de s'enrichir avec de nouvelles rubriques, de nouvelles thématiques. Qu'offre-t-il aujourd'hui aux citoyens? Quelle est son audience? Vous avez aussi évoqué des sites pour des publics spécifiques, les jeunes, les Français de l'étranger. Donc, quels sont-ils? Pouvez-vous nous donner quelques précisions aussi là-dessus?
Alors, il est vrai que le site internet du Sénat a une réputation qui n'est plus à faire, puisque ça fait depuis 1995, le président Monory a introduit cette nouvelle technologie. Il en était très féru et sa compétence nous a été extrêmement utile, puisque du jour au lendemain, nous nous sommes tous lancés, dès cette époque-là, dans ce défi des nouvelles technologies. Donc, grâce à lui, nous avons eu pratiquement un des premiers sites publics. Et cette avance que nous avons prise en 1995, je crois qu'on a su la garder. Ça ne dépend pas de mon service, donc j'en parle d'autant plus décontracté que je ne suis pas directement responsable de ce site. Mais il est vrai qu'il est de notoriété publique reconnue comme étant un des sites les plus riches, les mieux conçus, qui permet de trouver un maximum d'informations sur le Sénat, bien sûr, mais pas seulement sur le Sénat. À travers notre site, nous pouvons accéder aussi aux documents de l'Assemblée. On peut accéder à un certain nombre d'autres rubriques qui permettent d'en faire quelque chose de très riche. Alors,
il permet, je crois, aussi d'assister aux séances en direct.
Tout à fait. Alors, ça, c'est une des dernières petites révolutions technologiques que mon service a introduit dans ce site qu'il ne gère pas, à travers une fenêtre qui est comme un petit écran de télévision et qui vous permet en direct de suivre la séance en haut débit ou en bas débit, mais c'est bien meilleur en haut débit, bien sûr, de la voir avec ce qu'on appelle le dérouleur de la séance. Donc, vous pouvez suivre amendement par amendement ce qui se décide tout en entendant et en voyant. Vous pouvez le faire de chez vous, du bout du monde, à chaque fois que nous siégeons. Et c'est donc un instrument très, très précieux. Et j'en vois les conséquences, parce que de temps en temps, nous avons des coups de fil de gens qui nous téléphonent pour ou nous féliciter ou protester. Nous féliciter parce que l'intervention d'un sénateur a plu. Et donc, on décroche son téléphone pour nous dire vraiment, c'était très, très bien ce qui a été dit. Ou au contraire, par moment, pour nous dire, dites, il n'y a pas grand monde, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, c'est un moyen très interactif et très vivant d'associer le travail qui se fait dans l'hémicycle, qui n'est pas le seul travail, puisque les commissions sont un endroit aussi très, très privilégié de travail parlementaire. Mais les commissions ne bénéficient pas de la même publicité que l'hémicycle, que la salle des séances. Donc, il est vrai que tout ce qui s'y déroule peut trouver une publicité très naturellement, grâce notamment à cette séance en direct que l'on trouve sur le site du Sénat.
Quelle est l'audience de votre site internet? Elle est, je crois, très importante.
Ah oui, c'est une des plus importantes dans les sites publics, puisque, venant vous voir, je me suis un petit peu renseigné pour savoir quels étaient les chiffres récents. Donc, depuis le début de l'année 2008, nous tournons en ce moment en moyenne à 5 millions de pages vues par mois, en moyenne. Et si vous voulez, en termes, non plus cette fois de flux, mais de stock, en 2007, nous avons eu 81 millions de pages vues, ce qui est colossal, ce qui est colossal. C'est vraiment un site qui est très pratiqué, qui est très utile et qui est très, tout en étant esthétique par ailleurs, mais surtout qui remplit bien sa fonction, sa mission, qui est de donner beaucoup d'informations. Moi, très souvent, je passe par le site du Sénat pour aller chercher des renseignements que je pourrais peut-être aller trouver par Google. Mais le site du Sénat a un moteur de recherche qui est assez exceptionnel. Et là, vous voyez, on est en train de préparer les élections prochaines. Bon, on y a mis des pages. L'Europe, on y a mis des pages. Et à chaque fois qu'on a une grande manifestation, nous avons comme un journal une première page événement, une première page législative. Donc, vous avez les événements cœur de métier, quels sont en ce moment la révision, enfin, où c'est il y a quelques jours ou quelques semaines, la révision constitutionnelle. Demain, ça sera le texte sur les modifications économiques. Plus tard, c'est des textes sociaux ou à la rentrée, le budget. Tout ça fait la une législative et la une événementielle, qui sont deux unes séparées, qui permettent aux internautes d'accéder à un maximum d'informations rapides.
On y trouve aussi, je crois, les rapports parlementaires,
tous,
les rapports des sénateurs, tous les rapports.
Tous en ligne, tous les rapports sont en ligne. Et alors, tout ça aussi, c'est beaucoup... le raffinement est grand maintenant, puisque ce qu'on appelle les dossiers législatifs. Pour chaque texte, vous trouvez dans ce qu'on appelle le dossier législatif, qui est en ligne, vous trouvez un résumé qui est ce qu'on appelle dans notre langage le 4 pages, qui correspond à un 4 pages imprimé, qui résume tout ce qu'il y a dans le rapport. Donc ça permet quand même d'avoir une information beaucoup plus concise, synthétique et très très rapide. Le communiqué de presse, vous trouvez ensuite le rapport lui-même, le rapport première lecture, deuxième lecture de l'Assemblée ou du Sénat. Donc c'est pour chaque texte, vous avez sa vie complète depuis le dépôt du projet ou de la proposition de loi jusqu'au texte adopté. Et vous en trouvez tous les éléments synthétiques et au contraire très analytiques suivant ce que vous recherchez.
Ce site est en quelque sorte un portail puisqu'il donne accès également aux sites spécifiques pour les jeunes, pour les Français à l'étranger.
Tout à fait.
Et je crois pour les entreprises et les élus locaux. Vous avez quatre sites spécifiques.
Tout à fait. Alors on a déjà parlé de ceux pour les jeunes, on a un petit peu parlé de ceux pour les expatriés, pour les Français établis hors de France. On a aussi, on pourrait peut-être en parler là, de tous ces élus locaux qui, grâce au site Carrefour Local, c'est son nom, qui est donc une déclinaison du site principal du Sénat, permet d'avoir une information tout à fait remarquable sur tout ce qui se fait en matière de loi ou de règlement dans le domaine des collectivités territoriales. C'est le service, la direction des collectivités territoriales qui gère ce site et qui l'alimente. Et c'est là aussi quelque chose d'assez exceptionnel. On y trouve les bonnes pratiques, on y trouve toutes les informations, la circulaire qui vient à peine de sortir sur les élections municipales, cantonales, vous la trouverez dessus. Pour les sénatoriales, dès que est sortie la circulaire pour l'élection des délégués, vous la trouviez dessus. Donc vraiment, ça fait partie de... Là encore, dans ce même esprit, c'est à la fois quelque chose de facile d'accès et de très complet dans la manière de traiter les sujets, où ça vous renvoie par des liens sur les sites plus complets encore ou plus précis que les nôtres.
Un site très riche qui comporte aujourd'hui une innovation intéressante dont il faut informer nos auditeurs. Pouvez-vous leur expliquer comment ils peuvent, à partir de chez eux et partout dans le monde, visiter le palais du Luxembourg, qui est un trésor d'architecture, visiter ses jardins à tout moment et dans le monde entier. Grâce à une visite virtuelle, je crois, que vous venez de mettre en place assez récemment.
Tout à fait. Nous avons, nous avons accueilli et fait réaliser... par une technologie qui est assez exceptionnelle, en trois dimensions. Donc on peut se promener dans les plafonds, devant les tableaux, en fonction de au gré de nos humeurs, dans une vingtaine de pièces du Palais du Luxembourg. Cette visite virtuelle se compose donc des photos, mais des photos qui vous permettent de vous déplacer au sein de la photo et du lieu qui a été photographié. Donc vous rentrez dans la cour d'honneur du Sénat et vous pouvez aller vous promener sur les quatre angles, enfin les quatre murs principaux de cette cour d'honneur, donc la terrasse, le corps principal, la galerie est, la galerie ouest, la galerie nord.
L'hémicycle.
Et voilà. Après vous rentrez dans l'hémicycle, vous pouvez aller faire le petit hémicycle là où se trouve le plateau où siège le président, puis le grand hémicycle qui est juste en face, et vous pouvez vous promener, aller dans les cintres, voir un peu ce qu'il y a au mur, les tableaux, les statues. Non, c'est d'une richesse réellement assez exceptionnelle. Alors c'est la visite que vous pouvez faire vous-même.
Et que j'ai faite, j'invite nos auditeurs à la faire.
Et que vous pouvez faire avec l'aide de votre souris. Vous pouvez aussi souhaiter être guidé, et vous avez dans quatre langues, dont le français bien sûr, dans quatre langues, vous avez la possibilité de visiter, dans une vingtaine de minutes à peu près, l'ensemble de ces pièces avec un commentaire, des petits cartels qui vous donnent les noms des principaux tableaux, des meubles, etc. Et qui vous permet donc de faire cette visite virtuelle du Palais du Luxembourg qui, je vous dis, je la recommande, est particulièrement réussie. Et je suis très très fier de ce que nous avons pu mettre sur le site pour permettre à tous ceux qui n'ont pas la chance de venir à Paris de quand même découvrir ce beau palais qui appartient un peu au patrimoine commun de l'Europe, puisque Marie de Médicis était florentine, comme vous le savez, et qu'elle a voulu y reproduire quelque chose quand même qui n'est pas très très étonné de ces palais florentins.
le Palais du Luxembourg, donc de Marie de Médicis à Internet, grâce au Sénat, vous pouvez le visiter. Philippe Serres, je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre cette émission dans quelques minutes.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Canal Académie reçoit aujourd'hui M. Philippe Serres, directeur de la communication du Sénat, qui évoque la politique de communication de cette Haute Assemblée. Monsieur Serres, nous vous retrouvons pour cette émission après une courte pause. Et je souhaitais revenir sur le patrimoine prestigieux et historique qui appartient à l'État et dont le Sénat est affectataire, à savoir le Palais du Luxembourg et ses jardins et le Musée du Luxembourg. Pouvez-vous, en quelques mots, nous rappeler l'histoire de ces lieux ?
Tout à fait. C'est une histoire toute simple, dans un endroit qui était déjà, à l'époque, qui était excentré du centre de Paris. La reine Marie de Médicis, donc deuxième épouse du roi Henri IV, veuve, a décidé de s'installer en dehors du Louvre, qu'elle n'aimait pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle acquiert petit à petit tous les terrains nécessaires à la construction d'un superbe palais au sud de la Seine. Ce palais, elle le confie à un architecte très célèbre de l'époque, qui s'appelle Salomon de Brosse, qui en moins de 10 ans, 1615-1625, va lui bâtir l'essentiel de ce que vous voyez aujourd'hui encore. Les aménagements se feront bien évidemment au cours des siècles. Comme vous le savez, la reine, à la suite de la journée des dupes, doit quitter le territoire français et finit ses jours dans la pauvreté et surtout dans l'éloignement affectif à Coblence en Allemagne. Donc elle ne reverra jamais son palais. Et c'est Gaston d'Orléans, son fils chéri, le frère cadet de Louis XIII qui en hérite, et puis ça revient de temps en temps dans la branche aînée, Bourbon, puis de temps en temps chez les Orléans. Louis XVI le donne en complément d'apanage à son frère le comte de Provence, futur Louis XVIII, et nous arrivons à la Révolution. Donc juste après la Révolution, au terme du directoire, enfin de la révolutionnaire du directoire, on décide de faire du Palais du Luxembourg le lieu d'une assemblée. Donc ça nécessite quelques aménagements. Et c'est la deuxième grande période de construction, enfin de modification du palais, qui est conduite par Chalgrin, l'architecte Chalgrin, celui qui a fait l'Odéon, qui a fait l'Arc de Triomphe, etc., qui était un grand architecte de l'époque. Chalgrin fait l'escalier d'honneur, c'est-à-dire donc il détruit la galerie construite pour accueillir les tableaux de Rubens, qui sont aujourd'hui au Louvre, et il fait un grand escalier d'honneur parce qu'il faut redécouper le palais pour le rendre plus fonctionnel pour l'assemblée qui l'accueille. Ça, c'est la deuxième période, c'est 1804, l'escalier d'honneur. Troisième période de modification, très vite les sénateurs sont en nombre de plus en plus important et il manque d'espace pour la salle, notamment pour la salle des séances. Et donc, sous la monarchie de Juillet, on décide un agrandissement du palais de 33 mètres gagnés sur le jardin. Et c'est Alphonse de Gisors, le troisième et dernier architecte ayant considérablement modifié le palais, puisque donc on crée un troisième pavillon est et un troisième pavillon ouest au sud, dans le jardin, pris sur le jardin, qui va permettre de loger la bibliothèque, la célèbre bibliothèque, où Eugène Delacroix a peint les plafonds, les culs-de-four, et l'hémicycle. C'est les deux grands apports de cette construction qui commence en 1836, par là, et qui s'achève à la veille de 1848. Donc voilà les trois grandes époques. Ensuite, le palais connaîtra ce que vous imaginez. Donc sous le Second Empire, il redeviendra l'assemblée d'un Sénat qui progressivement retrouve des prérogatives. Puis Troisième République, nous sommes à Versailles, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. Je rapporte ce qui a été à l'époque. En 1879, une loi décide de confier de nouveau le palais Bourbon à l'Assemblée nationale et le palais du Luxembourg au Sénat. Et c'est comme ça que nous réintégrons cette fois-ci définitivement le 6e arrondissement pour ce qui concerne le Sénat. Donc c'est le Sénat de la 3e République qui est né à Versailles mais qui se développe à Paris, au palais du Luxembourg, puis le Conseil de la République au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et le Sénat depuis 1958, dans une affectation constante pour les sénateurs, les conseillers de la République, et de nouveau les sénateurs depuis 50 ans, cette année.
Un domaine très étendu, donc. Très...
Ah oui, c'est un domaine qui est tout à fait important. Sur 24 hectares, pour ce qui est du domaine jardin et des constructions, sur le palais stricto sensu doit tourner autour de 80 000 mètres carrés. Alors, il y a aussi quelques espaces de parking sous le jardin qui sont inclus dans ces 80 000 mètres carrés. Et 120 000 mètres carrés, quand vous y rajoutez les dépendances, c'est-à-dire un certain nombre d'immeubles que le Sénat, progressivement, dont le Sénat s'est doté dans le quartier pour ses extensions, extension de ses services, extension des bureaux de sénateurs.
Alors, en s'appuyant sur ce prestigieux patrimoine historique, le Sénat développe depuis plusieurs années une politique culturelle ambitieuse qui rencontre un vif succès auprès du public. Pouvez-vous nous citer les événements majeurs, principaux, ouverts au grand public dans ces différents lieux et nous dire quelques mots de l'audience, des visiteurs et du succès que rencontrent ces manifestations?
Alors, il y a les audiences qui sont quasi public. Je veux parler du musée du Luxembourg qui, donc, depuis en gros l'an 2000, accueille un certain nombre d'expositions prestigieuses, la collection Raffaele, Modigliani, Vlaminck, qui va s'achever dans quelques jours, puisque ça se termine le 20 juillet de mémoire. Tout ça, ce sont des expositions d'une exceptionnelle qualité, dans un lieu qui pourtant n'est pas du tout immense, puisqu'il fait moins de 1000 mètres carrés, bien moins de 1000 mètres carrés même, mais qui a su trouver un équilibre dans la présentation muséographique et dans le choix des expositions retenues, donc qui alternent entre des expositions d'art moderne et des expositions en lien avec l'Italie, compte tenu de Marie de Médicis. Donc c'est ou l'un ou l'autre, suivant les époques. Donc là, nous avons une... Alors ça alterne pas toujours l'un puis l'autre, ça peut être deux expositions modernes consécutives et puis une exposition sur l'Italie ancienne ensuite. Ça a été un grand succès, donc les chiffres sont connus. Modigliani a été, je crois, un des sommets avec la collection Rauch. Puis c'est des centaines de milliers de visiteurs à chaque fois, c'est-à-dire une concurrence très rude pour des grands lieux de prestige d'exposition, comme le sont les grandes galeries, par exemple, nationales, et qui ont pourtant des surfaces bien, bien supérieures. Donc, Musée du Luxembourg, ça c'est identifiable, on peut savoir combien il y a de visiteurs, c'est tout simple. Ce qui est plus complexe, c'est tout ce qui a été monté, qu'on appelle l'art passant. Ce sont ces expositions le long de la rue de Médicis, sur les grilles du Jardin du Luxembourg, deux fois par an, pour un temps limité, qui ont permis d'accueillir Yann Arthus-Bertrand pour la première d'entre elles, qui a été le succès le plus phénoménal qu'on ait jamais
superbe
rencontré.
Exposition,
superbe exposition.
Oui.
Et qui a permis de faire connaître mondialement, il était déjà bien connu, mais mondialement, Yann Arthus-Bertrand, grâce à ça.
Ce sont en général des photos.
Oui, ce ne sont pratiquement que des photos, à une exception avec la Bibliothèque nationale de France, où nous avons fait une exposition qui contenait des documents et des reproductions de gravures. Donc c'était pour Victor Hugo. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce schéma-là. Mais tout le reste, que ça soit le Sahel, que ça soit les enfants du monde, que ça soit le monde aquatique, enfin bon, tous ces 80 immenses photos en couleur et en noir et blanc, suivant le cas, éclairées la nuit, qui sont donc accessibles gratuitement à tout le public sur un trottoir qui est particulièrement large à cet endroit-là. Et qui donc vous permet d'admirer ça dans la journée, ça n'a rien d'exceptionnel, mais lorsque vous sortez d'un spectacle, d'un dîner dans le quartier, vous pouvez remonter cette rue de Médicis ou la descendre, suivant votre choix, et vous aurez la chance de pouvoir apercevoir ces très très belles images, c'est très, très évocatrice. Là, en ce moment, enfin, nous avons eu ces trois derniers mois, la superbe exposition des 30 ans du Figaro Magazine, qui était d'une exceptionnelle qualité aussi, et qui a rencontré un immense succès. Alors ça, c'est plus difficilement cernable, mesurable, puisque nous n'avons pas de compteur, le trottoir il est libre d'accès, mais il suffit de regarder le samedi après-midi et le dimanche, et là vous avez une idée du succès.
Tout à fait, y compris les enfants, les familles,
c'est fait pour eux,
c'est tout le monde.
Et nous y veillons, c'est-à-dire que nous veillons à ce que les photos ne soient pas choquantes pour les enfants, ne soient pas trop traumatisantes pour eux, parce que t'entends la misère du monde, malheureusement.
Et c'est une véritable animation du quartier, oui.
Alors certains nous le reprochent, mais je pense que raisonnablement conduite, c'est-à-dire en limitant les effets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des expositions tout au long de l'année, il y en a deux fois par an pendant 3 mois.
Donc le musée, les grilles et peut-être aussi quelques concerts,
tout à fait, le jardin,
la fête de la musique.
Tout à fait, le jardin est très souvent connaît aussi une animation. Nous avons des sculptures, des expositions de sculptures, nous avons de l'animation, on y accueille, mais ça c'est traditionnel. Ça, je veux dire que ça ne fait pas partie à proprement parler de la nouvelle politique de communication. Nous y accueillons un certain nombre de manifestations étudiantes, de caritatives, des courses en faveur de tel ou tel ou de lutte contre telle ou telle maladie. Bon, ça fait partie aussi de cette animation-là. Nous y accueillons à l'Orphéon, le petit kiosque qui est dans le jardin, des concerts tout au long de l'année, qui ont beaucoup de succès, gratuits, concerts gratuits, nous insistons aussi sur ça. Nous y faisons de temps en temps des manifestations plus spécifiques, mais on en parlera peut-être tout à l'heure.
La chaîne parlementaire Public Sénat a été créée en 2000. Et elle aussi, comme Internet et comme d'autres actions que vous menez, contribue à mieux faire connaître le Sénat et les travaux des sénateurs. Quel regard portez-vous sur cette chaîne? Qu'est-ce qu'elle apporte au Sénat et qu'apporte-t-elle aux citoyens?
Public Sénat, la chaîne parlementaire du Sénat, avec sa sœur LCPAN, la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale, ont contribué depuis maintenant 8 ans à faire émerger une nouvelle télévision d'information politique. Et le slogan de Public Sénat, une télévision pour vous faire aimer le politique, est un très très bon slogan et je crois qu'il correspond assez bien à l'action qui développe Jean-Pierre Elkabbach depuis ce temps. C'est une télévision que je trouve extrêmement dynamique, qui a su mettre en valeur l'essentiel du travail du Sénat, et aussi bien travail législatif que travail de contrôle, c'est-à-dire les commissions d'enquête, les commissions de contrôle sur les différents secteurs gouvernementaux ou d'administration. Je trouve qu'ils en rendent compte intelligemment. Je pense à une émission, Les Dessous de la Loi. Je vous cite ça parce que c'est une des dernières que j'ai regardées. C'est une série, hein, il y en a plusieurs. Vous en avez une sur les OGM, une sur la loi Châtel. C'est très, très bien fait. C'est un 52 minutes qui vous raconte comment on fabrique la loi. Vous assistez des extraits, bien sûr. Vous assistez aux auditions du rapporteur, vous voyez le travail entre le rapporteur et le fonctionnaire parlementaire, l'administrateur qui l'aide dans son travail. C'est extrêmement instructif, vous baladez sur le terrain, vous voyez comment le parlementaire, le sénateur, se fait sa religion sur le sujet, qui il rencontre, comment se fait le dialogue avec l'opposition et la majorité au sein de chaque commission. Moi, j'ai trouvé que c'était... Moi, j'aurais pas su faire.
Donc, c'est une belle leçon de civisme que je conseille.
Et surtout, c'est de la bonne pédagogie. C'est de la regarder. Pédagogie faite par des gens qui savent parler à autrui. C'est leur métier. C'est le métier des journalistes. Et c'est irremplaçable.
En cette année 2008, la présidence française de l'Union européenne offre au Sénat l'occasion de mieux faire connaître aux citoyens français l'action de l'Europe. Vous parliez de pédagogie. À cette occasion, le Sénat donc entend-il contribuer à une meilleure pédagogie de l'Europe auprès du citoyen, ou bien simplement contribue-t-il à mieux fêter l'Europe par des opérations
Non, ça a bien l'objectif que vous venez de rappeler, c'est-à-dire d'essayer de faire de la pédagogie d'abord en interne, de façon à sensibiliser tous les sénateurs aux questions, enfin ils le sont très vite ou très rapidement sensibilisés à tout ça, tous les sénateurs aux questions européennes, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Alors, il y a une délégation pour l'Union européenne au Sénat que préside le sénateur Hennel, mais dont font partie des gens qui sont, enfin des sénateurs qui sont de toute façon membres d'autres commissions, de diverses commissions, pardon. Mais il faut que l'objectif justement de ce semestre de présidence française et du programme d'accompagnement qu'a entendu développer le bureau du Sénat, c'est justement de renforcer d'abord une communication interne pour que tout le monde soit bien pénétré de l'importance des questions européennes dans la vie de tous les jours et dans la vie normative, c'est-à-dire dans la vie législative, des travaux législatifs du Sénat. Et puis, vis-à-vis de l'extérieur, nous avons essayé aussi de relayer cette action de notre gouvernement et du président de la République. Par exemple, le 9 mai, nous avons fait un concert pour l'Europe avec les Jeunes Voix du Rhin, qui a été l'occasion pour 600 personnes qui se pressaient dans la salle des conférences du Sénat de venir découvrir un chœur. C'est le chœur de formation des chanteurs, des solistes de l'Opéra du Rhin, donc l'opéra qui se trouve entre Strasbourg et Colmar, répartis sur plusieurs sites. Là, l'équipe des Jeunes Voix du Rhin se trouve à Colmar. Elle est formée pour ça. Et nous avons fait chanter des chanteurs de différentes nationalités européennes au Palais de Luxembourg le 9 mai, soirée de la Journée de l'Europe 2008. Donc, il y a ça. Nous avons fait tout récemment les couleurs de l'Europe. Nous avons hissé les couleurs de l'Europe dans le Journal du Luxembourg pour les 6 mois qui viennent. C'était le 25 juin dernier, 28 mâts immenses dans le jardin du Luxembourg, avec en fond
le 25 mai.
Non, 25 juin.
25 juin.
25 juin, c'était à quelques jours de l'ouverture du 1er juillet du semestre français de la présidence française. Et nous aurons comme ça un certain nombre de colloques au mois d'octobre, sans parler de l'essentiel, que sont les réunions parlementaires qui permettront d'accueillir alternativement à l'Assemblée nationale et au Sénat une dizaine de réunions en tout, de 4 ou 5 commissions qui recevront leurs homologues de toute l'Europe, de l'Europe des 27, des 26 autres pays.
Nous sommes à quelques mois des élections sénatoriales qui auront lieu donc le 21 septembre prochain. Ces élections verront le renouvellement de 114 sièges et l'élection de sénateurs qui auront désormais un mandat de 6 ans au lieu de 9 ans auparavant. Philippe Serres, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles sont les caractéristiques de ce scrutin prévu par la réforme de la loi de 2003 et pourquoi cette réforme en 2003? Que peut-on en attendre sur la composition du Sénat et sur son rôle? Va-t-on vers un Sénat rajeuni, féminisé?
J'allais dire quasi automatiquement, pour répondre à ces deux dernières observations. Moi, je voudrais juste commencer sur cette affaire du 21 septembre 2008 par vous faire observer que ça va être la première fois, et c'est pour nous une grande innovation, on essaie de s'y préparer, où vont devoir coexister les 20 000 visiteurs des Journées européennes du patrimoine, qui se situent le week-end du 20 et 21 septembre, et le 21 septembre, qui sera le dimanche des élections sénatoriales. Et nous allons saisir cette occasion pour justement faire mieux comprendre ce qu'est ce renouvellement sénatorial. Donc c'est la dernière fois que nous renouvelons le Sénat par tiers, à compter de 2011, qui est la prochaine échéance, dans 3 ans. En 2011, nous renouvellerons le Sénat par moitié. Donc c'est la fin du système de renouvellement par tiers, c'est aussi la fin ou quasiment la fin du nombre des sénateurs pour tenir compte de l'évolution démographique, qui a été un des objectifs aussi de la réforme de 2003. Donc le Sénat, quand vous dites 114, il faut préciser qu'il y a là-dessus une dizaine de sièges qui sont des nouveaux sièges, qui tiennent compte pour certains départements de l'augmentation d'un sénateur ou de 2 sénateurs. Je crois que cette fois-ci, il n'y a plus que des augmentations d'un seul sénateur dans certains départements. Donc, ça va conduire forcément, c'est ce qu'on appelle la série A, cette série qui va être élue, celle des départements qui vont de l'Ain à l'Indre, qui concerne un certain nombre de départements, de collectivités d'outre-mer. Je crois qu'il y a la Guyane dedans de mémoire. Et 4 des 12 sénateurs établis hors de France seront réélus aussi à cette occasion, puisque même étaient divisés par tiers. Ils sont 12. Donc, 4 d'entre eux seront renouvelés cette fois-ci. Je pense que comme les les deux précédentes fois, et surtout la dernière, ça va conduire à une féminisation accrue de la Haute Assemblée, qui a rencontré quand même un très vif succès, cette féminisation, en 2004, donc il y a maintenant 4 ans, puisque c'est qu'il y a eu une prolongation d'une année. C'est là où nous sommes passés, je crois qu'il y a aujourd'hui presque 60 femmes sénateurs, c'est-à-dire plus de 18%, ce qui peut paraître encore trop faible, mais qui est un gain considérable de féminisation, enfin un taux de féminisation considérable pour une assemblée parlementaire française. Et je suis sûr que nous allons, la prochaine fois encore, terriblement progresser, et pour le bien de tout le monde, puisque c'est un apport tout à fait essentiel que cette féminisation. Elles sont, toutes ces femmes qui sont rentrées sont des personnes très... très dynamiques, la plupart sont encore très jeunes et donc apportent vraiment une vision très nouvelle dans notre assemblée, et je trouve que c'est une évolution qu'il faut saluer et que tout le monde salue, et c'est un peu caricatural de présenter le Sénat comme une assemblée de misogyne parce qu'il ne l'est pas du tout.
Eh bien oui, le Sénat se féminise et se rajeunit. Merci Philippe Serres d'avoir accepté notre invitation et d'avoir permis à nos auditeurs cette plongée au cœur du Sénat. Merci de leur avoir ouvert les portes du Palais du Luxembourg, puisque le Sénat est à la fois une institution et un lieu chargé d'histoire. Nous aurons prochainement l'occasion de revenir au Sénat avec la présentation de rapports sénatoriaux dans d'autres émissions. En attendant, je vous rappelle l'adresse du site internet du Sénat, www.sénat.fr. Et vous pouvez aussi retrouver la visite virtuelle du Sénat sur le site de Canal Académie. Merci.
Merci.